Je vous souhaite la bienvenue à Il y a des avant-midi comme ça. On est rendu à Jaser Environnement avec Caroline Collin, qui est responsable des communications du Cobali. Bonjour Caroline.
Bonjour Audrey.
T'as passé un bon temps des fêtes?
Oui, certainement.
Ben bon retour.
Merci.
À cette routine en force,
oui.
Parce qu'on parle d'aménagement et de transformation des cours d'eau.
Oui.
Donc, on va parler de leur transformation par l'humain, mais aussi des conséquences que ça a pour la qualité de l'eau et pour les animaux qui s'y retrouvent.
Oui, puis pour commencer, ben j'aimerais que tu t'imagines, bon, que tu te promènes dans la région, en milieu rural, puis bon, tout d'un coup, tu aperçois un paysage bucolique, là, comme il y en a plusieurs dans le coin, hein, mm-hmm. avec une vieille grange, des champs qui sont en culture, puis bon, au travers de tout ça, il y a un ruisseau. Eh bien, je ne sais pas si tu l'as déjà réalisé, mais ce ruisseau que tu vois, qui est très rectiligne, hein, très droit,
ouais.
Ben c'est pas vraiment naturel.
Ah, c'est vrai?
C'est parce qu'il a été corrigé, redressé par le propriétaire jadis, afin d'améliorer le drainage des terres agricoles, de faciliter la culture de ces terres-là aussi, puis dans le fond, de maximiser la superficie cultivable. Donc, si tu vas faire une promenade, au contraire, dans le bois, en milieu sauvage, ben, tu vas voir qu'un ruisseau, ça serpente pas mal.
C'est vrai, il y a des cours d'eau, mais c'est jamais droit, c'est impossible. Ben, naturellement, là.
Exactement. Ça finit à un moment donné ou l'autre, là, par tourner, par faire des mm-hmm. courbes, etc. Maintenant, mais je t'invite à venir en milieu urbain. Donc, tu t'imagines que tu es dans un sympathique quartier résidentiel. Tu vois qu'il y a plusieurs maisons coquettes, les unes à côté des autres, des terrains gazonnés, certains où il y a de beaux aménagements paysagers, des fleurs, etc. Puis, tout d'un coup, il y a un petit ruisseau, tout droit, encore une fois, qui suit parfaitement la ligne de séparation entre deux terrains.
Mm-hmm.
Donc, tu le suis, puis tu vois que son tracé tourne avec un angle droit parfait, juste au moment où, ah, coïncidence, il traverse une rue dans un ponceau. Donc, tu continues de le suivre et puis là, tu le vois à nouveau tourner à 45 degrés alors qu'il traverse encore une fois une rue. Ben là encore, tu vas t'en douter, hein, tout ça, c'est pas anodin, c'est parce qu'on a modifié le tracé original de ce petit ruisseau-là.
Okay.
On a creusé un nouveau lit pour faire passer le ruisseau à des endroits qui répondaient à nos besoins humains. Sans nécessairement considérer que ce cours d'eau-là, ben, il fait partie d'un écosystème, donc c'est-à-dire un ensemble dynamique d'organismes vivants, donc de plantes, d'animaux, mm-hmm. de micro-organismes, qui interagissent entre eux, mais aussi avec leur milieu, donc le sol, le climat, l'eau, la lumière, donc c'est ça, dans le milieu dans lequel ils vivent.
Mais là, l'eau, elle circule, donc je comprends pas comment ça peut être un problème. Est-ce que tu vas nous expliquer ça aujourd'hui?
Je vais essayer le plus simplement possible. Parce que dans le fond, c'est vrai que ça peut avoir l'air banal, hein, comme modification d'un cours d'eau.
Ouais.
Mais par exemple, quand on redresse un cours d'eau, un ruisseau, on permet à l'eau de se déplacer plus rapidement, hein, que quand ça serpente. Donc, ça favorise malheureusement l'érosion des berges. Puis en plus, quand on vient changer le tracé naturel d'un ruisseau, bien, ça veut dire aussi qu'on enlève la bande riveraine qui existait à l'origine. Donc, un paquet de plantes, d'arbustes, d'arbres, mais parfois même
sûr.
Des roches au travers de ça. Puis tout ça, bien, ça représente une barrière naturelle qui assure une certaine stabilité des berges et qui empêche justement l'érosion du sol. Puis l'érosion, bon, je l'ai déjà abordé, là, je ne veux pas aller trop loin, mais on se rappelle que c'est problématique non seulement parce que ça entraîne une perte de sol, évidemment, mm-hmm. pour le propriétaire de ce terrain-là, mais aussi pour le cours d'eau en question, c'est problématique parce que ça signifie plus de sédiments, donc des particules de sol, dans l'eau. Et puis ça entraîne donc une moins bonne qualité de l'eau dans le ruisseau. Puis à terme, bien, ce ruisseau-là se rend dans le lac, donc ça se produit aussi, ça se répercute dans le lac également.
Oui, évidemment.
Un cas qui est connu à Mont-Laurier, c'est le cas du ruisseau Lantier. Le Cobali a d'ailleurs documenté ce cas-là.
OK.
C'est assez frappant à cet égard-là. En fait, le ruisseau qui est situé en milieu agricole, il est le principal affluent là, du lac des Îles, c'est-à-dire le principal cours d'eau qui va se déverser dans le lac.
OK.
Il apporte tellement de sédiments dans le lac des Îles qu'à son embouchure, ben, avec des images satellites, on voit que que le sol a littéralement avancé dans le lac depuis
okay.
qu'on a modifié le tracé en 1968. Donc, c'est assez impressionnant à voir, surtout quand on sait que le phénomène, ben, il a pris que quelques années là, à se réaliser.
Ah, fait que ça n'a pas été si long que ça, puis ça a eu des répercussions assez rapidement.
Et visibles à l'œil nu. Là.
Et surtout que c'est le principal cours d'eau là, qui se déverse. Exactement. Dans le lac.
Ouais.
Et si on parle, parce que là, on parle surtout de la flore, mais la faune aussi, les animaux, est-ce que ça a un impact pour eux?
Oui, puis particulièrement, tu vas t'en douter, hein, pour les poissons.
Oui, c'est sûr.
Parce que le creusage et le redressement d'un ruisseau, ben ça chamboule tout ce qui était jusqu'alors un habitat favorable et adapté aux besoins hein, des poissons en termes d'alimentation, de reproduction, de leur existence, bref. Donc, ça vient modifier tout l'environnement du cours d'eau et autour de celui-ci aussi. Donc, ça vient changer le lit du ruisseau, de quoi il est constitué. Donc, c'est du sable, des petites roches, de l'argile, etc. Ça vient modifier la pente, la présence de petits rapides qui entraîne aussi l'oxygénation de l'eau, la présence d'armoires dans l'eau aussi qui crée des lieux pour que les poissons s'abritent, puis bon, etc. Il y a d'autres impacts aussi. Mais pour revenir à la bande riveraine, qu'on parle de ruisseaux, de lacs, de rivières ou de n'importe quel cours d'eau, là, peu importe sa taille, la présence de la bande riveraine est importante pour préserver une bonne qualité de l'eau, bien sûr, là, chose qu'on a beaucoup entendu parler dans les années 2000 avec les épisodes d'algues bleu-vert, mais c'est aussi important pour tous les bienfaits que ça procure à plusieurs espèces fauniques, à commencer évidemment par les poissons. Donc, en fait, c'est intéressant de savoir qu'il y a une étude québécoise qui est intitulée « Efficacité des bandes riveraines, analyse de la documentation scientifique et perspective » qui a été publiée en 2007, puis qui a révélé que le milieu riverain compte près de 300 espèces de vertébrés, donc 30 espèces de mammifères, plus de la moitié des oiseaux et les trois quarts des amphibiens puis des reptiles.
OK, on parle pas juste des poissons, là.
Non, c'est ça, c'est beaucoup plus large. Puis évidemment, ben ça, c'est dans le cas où une bande riveraine, mais aussi le littoral, donc toute la partie, dans le fond, où l'eau débute et où c'est peu profond dans le ruisseau.
OK, ça, c'est le littoral.
Oui, ça, c'est le littoral. Okay. Bien, évidemment, ça, c'est dans le cas, donc, c'est ça, où une bande riveraine et le littoral se trouvent à l'état sauvage, ou du moins, ce qui s'en rapprocherait le plus. Donc, avec une bonne biodiversité en termes de plantes, d'arbustes et d'arbres, comme je le disais tout à l'heure. Et malheureusement, bien, c'est rarement le cas des ruisseaux urbains en milieu résidentiel. Comme, par exemple, si on prend le cas du ruisseau Léopold-Leduc, également à Mont-Laurier. Mm-hmm. C'est celui qui traverse là, le quartier résidentiel qui se trouve derrière l'hôpital pour se déverser dans la rivière du Lièvre, là, près des habitations Antoine-Labelle.
Oui, oui, on se situe bien.
Oui, donc, lorsque le Cobalier a fait la caractérisation de ce ruisseau-là, on a relevé qu'il y avait, entre autres, plusieurs endroits où les rives sont presque complètement recouvertes uniquement avec du gazon. Donc, en plus, à certains endroits, le ruisseau a même été dévié afin qu'il emprunte le fossé le long des rues. Et puis, il se trouve de cette façon-là à traverser là, plusieurs fois des rues via des ponceaux, là, ce qu'on appelle aussi parfois là, des calvettes. Puis tout ça, ben c'est problématique.
Mais comment est-ce que ça a été fait par quelqu'un ou ça s'est fait naturellement? Là, c'est pourquoi
non,
que ça a fait ça?
Ça a été fait par quelqu'un. Décisions urbanistiques à l'époque, évidemment. Okay. Aujourd'hui, c'est plus les mêmes règles, tout ça. Là, donc, mais oui, ça a été fait à l'époque.
OK, je comprends. Puis pourquoi ça devient une problématique?
En fait, d'abord, il faut comprendre que les cours d'eau, hein, au même titre que la forêt, puis d'ailleurs les bandes riveraines aussi, ça sert de corridor faunique. Donc, ça sert de lien entre différents habitats, c'est-à-dire que les animaux, donc les poissons, mais aussi les grenouilles, tortues, castors, bisons, etc., utilisent l'eau pour se déplacer afin de se nourrir, de se reproduire, de croître. En fait, au même titre que nous, on utilise les routes hein, pour se rendre au travail, aller
ben
à
oui.
dessiner, voir de la famille, aller
On en a besoin, hein, si on ne l'avait pas.
Oui, bien, eux ont besoin de l'eau pour ça et de ce qui se trouve autour. Alors, quand un poisson arrive face à un ponceau qui a été mal installé justement en vertu de la libre circulation des poissons, par exemple, si l'eau qui sort du ponceau se termine par une chute puis le poisson veut remonter,
on
comprend que le poisson, il fait face à un sérieux problème hein, pour poursuivre sa route. Donc, c'est important que... Peu importe le cours d'eau, d'ailleurs, hein, que ce soit une rivière, un ruisseau ou une petite crique, là, même celui où on retrouve de l'eau uniquement au printemps, il faut s'assurer que particulièrement les poissons puissent circuler sans entrave. D'ailleurs, il y a des règles à respecter qui sont inscrites dans la loi pour installer un ponceau. Puis tout ça, que ce soit en milieu forestier, agricole ou résidentiel.
OK. Donc là, je sens qu'il y a une problématique au niveau de l'humain. L'humain prend des mauvaises décisions. Et ça arrive souvent aussi, c'est l'être le plus intelligent. Mais parfois, on utilise mal cette intelligence, malheureusement.
Oui, mais on améliore nos connaissances aussi. Donc, il faut apprendre des erreurs qu'on a faites par le passé.
Complètement. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec toi, justement. Donc, si j'ai un terrain, sur lequel il y a un ruisseau. Aurais-tu des conseils à donner pour faire un certain aménagement, mais qui respecte l'environnement en même temps?
Bien, premièrement, c'est sûr, on ne peut plus faire comme avant. C'est-à-dire à l'époque où on achetait un terrain, puis on en faisait vraiment ce qu'on en voulait, en faisant comme s'il n'y avait rien qui existait auparavant, comme si c'était un milieu vide. Il faut apprendre à faire avec certains éléments naturels qu'on retrouve sur le terrain. Mm-hmm. Des éléments qui sont finalement non modifiables ou en tout cas très, très légèrement. Ensuite, bien, il faut réaliser que la propreté, au sens esthétique du terme, comme on l'entend, là, c'est très loin de correspondre à la santé de l'environnement. Bien au contraire, quand on dit, par exemple, qu'on nettoie notre terrain, qu'on nettoie notre bord de ruisseau, de lac, de rivière, en fait, on enlève des éléments qui sont indispensables pour la survie des écosystèmes en place. Donc ça, il faut en prendre conscience. Bref, si on souhaite aménager son bord de l'eau, il faudrait mieux le faire sur une petite partie de son terrain,
okay.
Puis laisser la plus grande partie possible à l'état naturel. Donc, c'est-à-dire où on touche vraiment là, à rien. On laisse faire la nature faire les choses telles qu'elle l'entend.
J'imagine un peu d'entretien, c'est pas très grave, mais...
Un peu, mais vraiment là, ouais. le minimum du minimum. En plus d'être bon pour l'environnement, de laisser tout ça à l'état naturel, ça nous laisse plus de temps libre.
Oui, ça c'est vrai. On en a besoin de temps libre, surtout qu'on est de retour au travail, dans la routine en ce moment. Eh bien, merci beaucoup, Caroline Collin.
Ça fait plaisir.
Elle est responsable des communications du Cobali. Si jamais vous voulez suivre, en savoir plus ou seulement réécouter cette chronique, il y a cfno.ca où je vais mettre la chronique, mais sinon, vous pouvez consulter le site web aussi du Cobali au www.cobali.org. Et vous avez aussi une page Facebook, Caroline?
Oui, en fait, on cherche Cobali sur Facebook et on va nous trouver facilement.
Je te remercie beaucoup. Je te souhaite une belle semaine.
Merci, toi aussi.
Merci.